Révélation nombre 2221 du 27 janvier 1942. Disciple de Pierre, puissance ecclésiastique mondaine. Lisez la Bible et vous verrez que l'esprit de vérité a été mis de côté de la manière la plus évidente. La parole de Dieu vous a été cachée pour que vous ne deveniez pas voyants, vous qui cherchez la vérité. La transmission est observée fidèlement, mais jusqu'où cette transmission correspond à la doctrine de Christ, cela n'est pas examiné. Combien de fois a été changé le sens de la parole divine? Combien de fois la parole de Dieu a été interprétée faussement et combien rarement la fausse interprétation a été contestée? Cela a guidé l'humanité dans l'erreur et cela n'a pas été assez remarqué, bien que cela ait été la cause de toutes les scissions et des luttes religieuses. Lorsque Jésus a marché sur la terre, il a parlé du royaume de Dieu, d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Il n'a pas parlé d'un pouvoir mondain, il n'a pas parlé d'un pouvoir ecclésiastique, d'une organisation. Il n'a pas parlé d'homme qui devait régner à la place de Dieu sur sa communauté. Il a dit seulement à ses disciples, « Allez et enseignez à tous les peuples. » Il leur a donné la tâche d'instruire les hommes sur sa doctrine d'amour, et il leur a promis sa collaboration s'ils restaient dans son esprit, parce que dès qu'ils enseignaient l'amour, eux-mêmes devaient vivre dans l'amour et ainsi le Seigneur lui-même qui est l'amour était avec eux. Mais là où règne l'amour, tout pouvoir régnant est inutile, là où règne l'amour, là l'un sert l'autre, et là où règne l'amour, là les commandements sont inutiles, à moins qu'aux hommes ils soient prêchés le commandement de l'amour, que Dieu lui-même a donné. Ce qu'enseigne l'amour, correspond à la volonté divine, mais ce qui a été ajouté au travers d'autres commandements n'est pas conforme à la volonté de Dieu, parce que la base de tout commandement nécessite un pouvoir dominant. Les hommes cependant doivent vivre entre eux comme des frères, seulement subordonnés à la volonté de Dieu, s'ils veulent conquérir le royaume de Dieu. Ils ne doivent pas s'élever contre le pouvoir mondain que Dieu a nommé pour garantir l'éducation et l'ordre, là où celui-ci est violé, mais son royaume n'est pas de ce monde. Dans son royaume, c'est uniquement le Seigneur qui a le pouvoir, et il n'est vraiment pas nécessaire d'hommes sur la terre qui le représentent et exercent leur pouvoir sur le prochain. Où trouve-t-on une parole du Seigneur lors de son chemin terrestre qui fait référence à un tel pouvoir? Il a mené un chemin de vie dans l'amour, il a donné l'amour et enseigné l'amour. Le vrai amour exclut de vouloir dominer. Le plus fort ne devrait pas contraindre le plus faible, même là où il est enseigné l'accomplissement des commandements divins, parce qu'une action exécutée dans la contrainte, même si elle est noble et bonne, n'a pas d'une grande valeur. Seulement lorsque la libre volonté est devenue active dans l'homme, ses actions sont considérées par Dieu. Ainsi Dieu exige seulement la libre volonté de l'homme. Mais des hommes sur la terre n'ont jamais eu le droit d'ajouter arbitrairement leurs commandements aux commandements divins. Et encore moins il peut être imposé aux hommes d'observer ces commandements en tant que devoir, donc d'exiger qu'ils soient suivis sous menace de punition dans le temps et dans l'éternité, et pour échapper à cette punition il serait maintenant nécessaire de s'acquitter d'un commandement qui autrement serait resté inaperçu. Donc il est impossible que l'accomplissement de tel commandement ait une profonde valeur devant Dieu et pour l'éternité. Lorsque les disciples ont exécuté la tâche du Christ et ont porté l'Évangile dans le monde entier, l'action de Dieu était clairement visible. Parce qu'au nom de Jésus il guérissait des malades, chassait des esprits malins et faisait des miracles pour convaincre leurs auditeurs de ce qu'ils enseignaient, parce que l'Esprit de Dieu était avec eux et en eux. Tout ce qu'ils ont réalisé était l'action de l'Esprit divin. Ils annonçaient la doctrine de Christ, la doctrine divine de l'amour et eux-mêmes montraient l'exemple pour l'amour du prochain et ainsi toute volonté de dominer était totalement exclue, parce qu'ils étaient entre eux comme des frères et se servaient dans l'amour. Cela était la fonction que Jésus-Christ a imposée à ses disciples pour leur activité future, mais il n'a jamais demandé à un des apôtres d'être le chef, d'être un directeur auquel tout devait obéir. Mais ce qui s'est levé après était en déviation totale avec ce que le Seigneur lui-même représentait. Il s'est constitué un pouvoir ecclésiastique mondain qui a structuré chaque commandement d'amour sous une forme qui ne correspondait plus à ce que Jésus-Christ lui-même avait enseigné aux hommes. Ils exigeaient bien de servir dans l'amour, mais cela n'était pas pratiqué par eux. Cela était d'une grande importance, parce qu'il s'est levé de nouveau la même chose que ce que Jésus-Christ avait condamné au temps de son chemin terrestre, et il était commandé aux hommes ce qu'ils auraient dû faire par libre volonté. Et des hommes de distinction honorable, de rang et de dignité se sont nommés successeurs des apôtres qui, eux, avaient rempli cette fonction dans la plus grande pauvreté, et une œuvre d'édification d'un développement immense de faste s'est appelée la seule Église qui rend bien heureux, et que Jésus-Christ aurait imposé avec ces mots, « Tu es Pierre, le roc ». Ces mots ont été interprétés par des hommes qui recherchaient le pouvoir. Mais ces mots ne permettent pas cette interprétation, comme quoi Pierre serait le fondateur d'un pouvoir ecclésiastique et que les potentats qui président cette Église soient les successeurs des apôtres, de ces apôtres qui annonçaient dans le monde l'Évangile, la divine doctrine de l'amour, sans statut ni distinction. Pierre était le plus fidèle d'entre eux et Jésus remarqua sa forte foi avec les mots, « Tu es Pierre, le roc. Et sur ce roc je veux édifier mon Église. » Il appelle la communauté des croyants son Église, parce que ceux qui veulent conquérir le royaume de Dieu doivent s'unifier dans la plus profonde fidélité et donc former son Église. Telle est sa volonté et il a exprimé cette volonté par ces mots. Mais ce n'était pas sa volonté que des porteurs de hautes et honorables distinctions se considèrent comme chefs d'une telle communauté et emploient leur pouvoir de sorte que d'innombrables usages et cérémonies fassent devenir sans importance le vrai noyau. C'est-à-dire que la divine doctrine de l'amour reste inaperçue devant les innombrables extériorités auxquelles il est attribué trop de valeur et donc la vraie mission des apôtres dans le monde pour l'annonce de l'Évangile n'est plus reconnue. Parmi ces potentats il peut certes y avoir des hommes selon le cœur de Dieu, et à ceci Dieu ne cachera pas vraiment son esprit et sa grâce. Mais leur sagesse n'est pas la conséquence de leur position ou de la haute fonction qu'ils revêtent, mais de leur juste chemin devant Dieu. Ceux-ci sont alors de vrais disciples de Pierre, parce qu'ils sont forts dans la foi et ils puisent leur sagesse dans la force de leur foi, parce qu'alors ils sont comme un roc dont s'écoule l'eau vivante. Alors ils sont les vrais représentants de l'Église du Christ qui est la communauté des croyants. Amen.